nuit de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
En 1966, pour le 350e anniversaire de la mort de Cervantes, France Culture, en plus de ses productions maison, avait passé des commandes aux radios de langue française. Nous allons écouter une émission intitulée « Don Quichotte, entre le livre et le temps », produite par la RTB, Radio-Télévision Belge. Cette émission permet de replacer l'œuvre de Cervantes dans son contexte historique, mais aussi dans l'histoire littéraire de son temps et d'une autre.
Don Quichotte, entre le livre et le temps.
Cette émission est réalisée avec la participation de Mesdames Elena de la Souchère et Marthe Robert et de Monsieur Pierre Villard.
On eut nouvelle de la ligue que Sa Sainteté, le pape Pie V, d'heureuse mémoire, avait faite avec la République de Venise et avec l'Espagne contre l'ennemi commun, qui est le Turc. On sut pour certain que le sérénissime Don Juan d'Autriche, frère naturel de notre bon roi Don Philippe, serait le général de cette ligue, et on publia le très grand appareil de guerre qui se faisait. Et la fortune voulut que le seigneur Don Juan d'Autriche ne faisait que d'arriver à Gênes et s'en allait à Naples pour se joindre à l'armée de Venise, ce qu'il fit à Messine. Je dis enfin que je me trouvais en cette très heureuse bataille de Lépante, ayant charge de capitaine d'infanterie, degré d'honneur auquel ma bonne fortune, plutôt que mon mérite, me fit monter.
Le 7 octobre 1571, date de la victoire navale de Lépante, représente sans doute un tournant dans l'histoire d'Espagne, le chant du cygne d'un empire qui avait connu une trentaine d'années auparavant son apogée politique, économique et spirituelle. Depuis que Philippe II a succédé au grand Charles Quint, les symptômes d'une décadence prochaine apparaissent. Ce sont déjà les embarras financiers, le vent de révolte qui souffle sur les provinces protestantes des Pays-Bas. Ce seront bientôt le désastre de l'invincible Armada, la grande expulsion des Morisques hors d'Espagne, la prise de la Goulette par les Turcs, la détresse croissante du trésor public. Mais la bataille de Lépante est en tout cas une date clé dans l'histoire spirituelle de Miguel de Cervantes. Elle marque jusque dans sa chair le jeune et ardent soldat qu'il est alors. Il n'oubliera pas ce jour dans lequel se sont exprimés pour lui les prestiges conjugués de l'action et de sa justification, ce jour dans lequel se concentre la nostalgie d'un ordre ancien qu'il verra petit à petit se défaire.
Comme si mon état de manchot avait été contracté dans quelque taverne, et non pas dans la plus grande affaire qu'aient vu les siècles passés et présents, et que puissent voir les siècles à venir.
Cervantes a 24 ans au moment de Lépante. Un homme de 20 ans, son aîné, conduit d'une main dure les destinées de l'Espagne, Philippe II, le roi prudent, enfermé au palais monastère de l'Escorial. En 1605, quand paraîtra la première partie du Quichotte, Cervantes aura alors 58 ans, Philippe II sera mort depuis 7 ans, et les signes de décadence perceptibles sous son règne s'accuseront à gros traits. Cette dégradation de l'abdication de Charles Quint au règne de Philippe III caractérise une société et un pays.
Je distinguerai d'abord entre l'époque de Cervantes et l'époque du Quichotte, car Cervantes a écrit le Quichotte, ou en tout cas l'a publié, alors qu'il avait près de 60 ans, de telle sorte que l'époque de Cervantes serait l'époque de la grande époque de Philippe II, tandis que l'époque du Quichotte, c'est au contraire, après la mort de Philippe II, le moment où il me semble que l'Espagne commence à prendre conscience d'une véritable crise, en tout cas du passage d'une période d'élan vers une période de déclin. Il ne faut pas oublier, par exemple, que 1596, c'est le pillage dans la baie de Cadix de la flotte espagnole, qui donne l'impression qu'il n'y a plus de domination des mers tranquille pour l'Espagne. Ensuite, il y a la mort même de Philippe II. La disparition d'un homme de cette envergure est évidemment ressentie et elle peut être une sorte de point de départ. Il y a la peste de 1599-1600 qui est à l'origine de la conscience du dépeuplement, de la conscience décisive du dépeuplement. Il y a naturellement la préparation de l'expulsion des Morisques qui a lieu en 1609-1610, sans parler des nombreuses disettes de cette période, en particulier celle de 1605. Et d'autre part, on peut parler aussi du problème monétaire. C'est le moment où, l'excès d'émissions de monnaie de billon, on commence à prendre conscience que tout ne reposera plus, tout ne peut plus reposer sur les arrivées d'or et d'argent, et surtout d'argent d'Amérique. Jusqu'à la fin du XVIe siècle, on a l'impression que l'Espagne est à coup sûr la première puissance du monde et la plus riche puissance du monde. Et à partir de 1600, on commence à s'apercevoir que, d'abord, l'échec militaire, l'échec de puissance politique commence à apparaître, mais surtout l'échec économique, c'est-à-dire qu'il ne suffisait pas de recevoir de l'or et de l'argent d'Amérique, et que, au contraire, il était possible que cela eût détruit les possibilités créatrices de l'Espagne. C'est surtout après 1599-1600 que nous allons voir ce thème, le thème de la malédiction de l'or, se développer.
Pierre Villard vient de mettre l'accent sur l'échec économique et son expression, la malédiction de l'or, pour caractériser la société espagnole au temps du Quichotte. Pour Elena de la Souchère, l'analyse peut remonter plus haut et dégager, dès le règne d'Isabelle la Catholique, un certain nombre de faits qui ont marqué la société espagnole du XVIe siècle.
C'est une société qui avait subi de très profonds bouleversements. Elle était à la fois traditionnaliste, dans la mesure où elle était le prolongement de la société antérieure, et en même temps, certains éléments nouveaux avaient fait leur apparition. Nous avons deux éléments, un élément social et un élément technico-politique. Élément social, c'est la révolution qui est intervenue à la fin du XVe siècle, au moment de l'avènement d'Isabelle la Catholique. Il y a eu, à cette époque, une lutte entre le pouvoir royal, qui s'appuyait alors sur la petite aristocratie des Hidalgos et surtout sur les communes, contre la grande féodalité. D'autre part, la grande crise qui a été déterminée par la découverte de l'Amérique. Nous avons également, dans cette découverte de l'Amérique, le prolongement d'un des éléments de profond bouleversement de la société espagnole, qui a été la fin des croisades. C'est-à-dire que l'Amérique allait offrir à la classe des petits hidalgos, c'est-à-dire à une classe de soldats laboureurs, qui était née de la croisade, qui était née de la nécessité de lutter contre un envahisseur en Espagne même. La découverte de l'Amérique allait offrir à cette classe, qui était condamnée par le fait de l'interruption de la guerre, un nouveau champ d'expansion, et qui allait en même temps bouleverser complètement l'économie espagnole, en lui apportant un excès de métaux précieux, c'est-à-dire en déterminant une crise d'inflation qui n'était compensée par aucun autre facteur, puisque à l'époque, la science économique était complètement inconnue. Par conséquent, c'est la plus grande et la plus grave crise d'inflation de toute l'histoire. Donc ce sont là les trois éléments qui déterminent cette société dans laquelle Cervantes a vécu, dans laquelle Cervantes a créé le personnage de Don Quichotte. Cervantes lui-même naît en 1547, c'est-à-dire exactement 55 ans après la découverte de l'Amérique, et dans ce moment où se produisait ce phénomène, d'une part du départ vers l'Amérique de la classe des petits hidalgos, classe à laquelle appartenait et Cervantes et son personnage, Don Quichotte, et d'autre part, époque où se produisait cette crise d'inflation dont j'ai parlé tout à l'heure.
Cervantes vit donc dans une société marquée d'un signe de contradiction. Aussi bien, sa vie et son œuvre seront-elles contradictoires et dialectiques, de l'honneur chevaleresque à la pauvreté, à la prison, du ridicule au sublime. Tel ce portrait de lui-même qu'il nous a donné au soir de sa vie en préface aux nouvelles exemplaires.
Celui-ci que tu vois, au visage aquilin, aux cheveux châtains, au front lisse et dégagé, aux yeux allègres, au nez recourbé, quoique bien proportionné, la barbe d'argent qui fut d'or il n'y a pas 20 ans, les moustaches longues, la bouche petite, les dents non encore poussées, car il n'y en a que 6, encore sont-elles mal conditionnées et plus mal placées et ne se correspondent-elles pas, la taille entre deux extrêmes, ni grande ni petite, le teint vif, plutôt blanc que brun, un peu voûté des épaules et le pied assez peu léger. Celui-ci, dis-je, est l'auteur de la Galatée et de Don Quichotte de la Manche. Celui qui fit le voyage du Parnasse à l'imitation de celui de César Caporali et divers autres ouvrages qui vont par là tout égarés et peut-être sans le nom de leur maître. Il s'appelle communément Miguel de Cervantes Saavedra. Il fut soldat pendant de longues années et 5 ans et demi captif, où il apprit à prendre patience dans les adversités. Il perdit la main gauche d'une arquebusade à la bataille navale de Lépante. Blessure que, toute laide qu'elle puisse paraître, il tient pour belle, car il l'a reçue dans la plus mémorable et la plus haute occasion qu'aient vu les siècles passés et que puissent espérer de jamais voir les futurs. Et en combattant sous les bannières triomphantes du fils du foudre de guerre Charles Quint, d'heureuse mémoire.
Lépante revient comme un thème insistant, mais aussi les longues années de soldats, avec leurs errances heureuses en Méditerranée, en Italie, en Sicile, avec sans doute en surimpression l'illusion de succès et de gloire que nourrissait chaque soldat.
Je deviens général, je fais la course, je conquiers Chypre, je me nomme prince. Je me couronne roi en Famagouste, je reconnais le roi d'Espagne, le Turc tremble. Là-dessus vient la fin du tour de garde, il se retrouve au garde à vous, pique à l'épaule.
Mais ce que Miguel de Cervantes ne rappelle pas dans son autoportrait, ce sont les années désenchantées de l'âge mûr et de la vieillesse après sa libération du bagne d'Alger. Une vie littéraire, certes, et la satisfaction de voir s'épanouir son génie, mais aussi une vie matérielle terne ou difficile. Le peu plaisant métier de commissaire aux vivres, les réquisitions qu'il faut aller appliquer à travers toute l'Espagne, les accusations, l'emprisonnement même et l'excommunication, l'existence quotidienne et médiocre d'un hidalgo.
L'évolution du XVIe siècle me semble être particulièrement frappante précisément du fait qu'elle a créé au centre de la société espagnole une énorme classe moyenne qui a pu être entretenue par les richesses extérieures de l'Espagne et qui a donné tous ces letrados, c'est-à-dire toute cette immense cohorte des juristes de Salamanque, tous ces gens ayant des situations de type intellectuel, de type administratif, de type ecclésiastique, et de type militaire aussi, et surtout quand la grande aventure militaire est sur le point de se terminer, tout cela forme une sorte de classe qui n'a plus de rôle très précis dans les structures, et particulièrement dans les structures économiques de la société, et qui vit précisément dans l'irréalisme à cause de cela, à mon avis. De sorte que Cervantes n'est pas à proprement parler le représentant d'une classe, mais peut-être est-il le représentant d'une sorte d'absence de classe au centre même de la société espagnole, et qui dérive précisément de la décadence même de des structures économiques des débuts du XVIe siècle jusqu'au début du XVIIe.
Ô pauvreté, pauvreté, je ne sais pas pour quelle raison le grand poète de Cordoue t'appelle divin présent mal reconnu. Quant à moi, je sais que la sainteté consiste dans la charité, l'humilité, la foi, l'obéissance et la pauvreté. Toutefois, avec tout cela, je dis que celui qui est satisfait d'être pauvre est en bonne grâce auprès de Dieu, si ce n'est de cette manière de pauvreté dont un des plus grands saints parle en ces termes. Possédez toutes choses comme si vous ne les possédiez point. Et cela s'appelle pauvreté d'esprit. Mais toi, ô seconde pauvreté de qui je parle maintenant, pourquoi désires-tu de te frotter plutôt à la noblesse et aux gens d'honneur qu'aux autres personnes? Misérable le noble qui, pour entretenir son honneur, fait pauvre chair à huis clos, et puis, payant de mine, sort dans la rue avec un cure-dent, bien qu'il n'ait mangé chose qui l'oblige à se les nettoyer. Misérable, dis-je, celui-là qui a l'honneur chatouilleux et croit que l'on voit d'une lieue le rapetassement de son soulier, la graisse de son chapeau, la corde de son manteau et la fin de son estomac.
Voilà donc quelques-unes des racines biographiques qui alimenteront l'éternelle contestation du Don Quichotte. Tantôt ce sera l'essor idéaliste.
Les enchanteurs peuvent bien m'ôter l'aventure, mais l'élan et le courage, jamais.
Tantôt le reflux du désenchantement.
Pour moi, Sancho, je naquis pour vivre d'une mort continuelle.
Jean Cassou, dans sa remarquable préface aux nouvelles exemplaires, a mis en lumière cette oscillation perpétuelle de l'œuvre au bout de laquelle, finalement, la réalité l'emporte.
Si Cervantes est l'une des plus vibrantes et des plus sonores figures de l'humanité, c'est que son génie est dialectique. Si son principal chef-d'œuvre a été le livre le plus illustre de toutes les littératures, c'est qu'il a pour sujet justement ce qui fait le nœud essentiel de la vie humaine, la contradiction. Né dans le moment même le plus contradictoire de l'histoire, entre le déclin du Moyen-Âge chevaleresque et l'explosion des temps modernes, au point critique de la connaissance, l'ingénieux Hidalgo Miguel de Cervantes, tout ensemble héros d'épopée et pauvre diable, était bien fait pour nous léguer ce Don Quichotte, où tout est ambigu et se dédouble en perpétuel jeu de miroir, le maître et le serviteur, l'idée et la réalité, la pensée et le monde, l'expérience et l'illusion, le poète et sa création. Et n'entrons pas dans les détails, car à chaque instant, une formidable ironie nous donne à connaître, puis à douter, puis à connaître encore. La folie va l'emporter, la raison revient, puis se colore de folie, tandis que la folie résonne. Mais au bout du compte, le monde l'emporte. Un monde qu'il est impossible de nier, et avec lequel il faut compter sans cesse. Il faut se résigner à son destin, il faut le regarder en face, il faut l'entendre et le décrire.
Le monde réel l'emporte donc, et avec lui, la conscience de la disparition d'un ordre ancien, idéalisé. Et le Quichotte nous donnera une implicite critique des romans de chevalerie.
Le roman de chevalerie avait été l'expression de la classe féodale. Don Quichotte se situe à un moment où le genre était en train d'expirer. Le genre était en train d'expirer parce que il avait été l'entretien, il avait été ce qui divertissait la classe aristocratique, il avait surtout été l'exaltation de cette classe, l'exaltation du chevalier. De plus en plus, ce qui vient au premier plan, ce qui est honoré, c'est la valeur guerrière, mais la valeur guerrière au service du roi. Il est caractéristique que dans un des premiers entretiens entre Don Quichotte et Sancho, celui-ci conseille à son maître de mettre sa valeur au service du roi en s'engageant dans l'armée. Et n'oublions pas que Cervantes lui-même et son frère ont été des soldats. Ils appartenaient, je le rappelle, à cette classe des petits hidalgos qui a soutenu le pouvoir royal et qui s'est engagé dans les tercios, c'est-à-dire dans les régiments du roi, et qui a formé ce que l'on appelait l'infanterie.
Mais quel est donc le sens de la moquerie de Don Quichotte à l'égard des romans de chevalerie précédents?
Dans une certaine mesure, c'est surtout une moquerie de la prouesse individuelle, de la prouesse gratuite, la prouesse au service de l'honneur, à laquelle il oppose la prouesse patriotique au service d'un ordre établi. Et également moquerie de la mentalité de la féodalité, à laquelle il oppose la mentalité de discipline au service du roi.
Mais l'ambiguïté du Quichotte est à plusieurs niveaux. Si sur un plan, le monde nouveau, actuel, conteste le monde ancien tel que l'idéalisent les romans de chevalerie, d'autres couples, à travers le roman, éclairent d'autres aspects de la relation entre le désir et la lucidité, l'idéalisme et le réalisme. Tels les couples Cervantes-Don Quichotte et Don Quichotte-Sancho Panza que Marthe Robert analyse maintenant.
Cervantes et Don Quichotte ne font pas exactement une seule et même personne, bien entendu, mais à mon avis, Don Quichotte représente l'écrivain en Cervantes. Ce n'est pas tout à fait arbitraire de le penser, mais ça pourrait se fonder très précisément sur les textes, parce que Don Quichotte a à faire avec les romans de chevalerie. Sans doute, il ne les écrit pas, mais il en lit beaucoup, comme Cervantes lui-même. Et puis, il est dit qu'il voulait en écrire, n'est-ce pas? Je pense donc que Cervantes dépeint Don Quichotte, c'est l'écrivain. L'écrivain épris d'idéal, l'écrivain épris de perfection, de beauté, et qui se trouve par là même en conflit avec lui-même, avec l'homme d'action, l'homme rationnel, l'homme raisonnable, si vous voulez. Bien sûr, dans le livre même, cette relation n'est pas si apparente qu'on ait pu parfois s'y tromper, car Don Quichotte est un personnage apparemment grotesque. Moi, je ne trouve pas du tout. Je le trouve très émouvant, au contraire. Mais à y regarder de près, il devient d'ailleurs de plus en plus intelligent. Et même en dehors de cela, il est très sensible tout le long du livre, que Cervantes a incarné dans Don Quichotte son désir, n'est-ce pas? Don Quichotte, c'est le désir, et Cervantes, c'est le bon sens qui juge l'impossibilité du désir, si vous voulez.
Est-ce que vous ne pourriez pas préciser maintenant les relations qui existeraient entre Don Quichotte et Sancho Panza?
Oui, alors nous nous trouvons là devant un autre couple, n'est-ce pas? Il y a un premier couple, si vous voulez, qui n'est pas visible. Celui-là, c'est Cervantes, Don Quichotte, l'écrivain et la littérature. L'écrivain et l'écriture, et puis d'un autre côté, autre couple, Don Quichotte, Sancho Panza. Vous savez, on a remarqué bien souvent qu'ils avaient de curieuses relations qui sont presque de mère à fils, n'est-ce pas? Sancho, par certaines de ses fonctions, soigne Don Quichotte, qui n'est pas capable de se subvenir à ses propres besoins, comme chacun sait, c'est lui qui a l'argent, c'est lui qui lui donne à manger, il ne penserait pas à manger ou à boire. Ce sont donc de curieuses relations de mère à fils, n'est-ce pas, Sancho étant la mère et Don Quichotte le fils. Mais l'opposition peut se compléter aussi. C'est une merveilleuse dichotomie qui permet encore une fois une satire à double tranchant, n'est-ce pas, car Don Quichotte, étant complètement déchargé par sa chimère littéraire, n'est-ce pas, de tout soin matériel, il est continuellement placé en face d'une réalité démesurément grossie, beaucoup plus grossière et beaucoup plus triviale que nature, par l'existence de Sancho Panza, n'est-ce pas, qui ne s'appelle pas sans raison la panse. Et c'est une critique de l'idéalisme et en même temps une critique de l'impossibilité de ne pas être idéaliste, si vous voulez, car c'est un fait d'observation courante, n'est-ce pas, que effectivement l'ascétisme de Don Quichotte est justement ce qui provoque la trivialité. Car si Don Quichotte n'était pas aussi séparé de la vie matérielle, s'il n'était pas aussi inhabile à se servir de son corps, à reconnaître ses propres appétits et à se reconnaître en somme pour un corps, bien, le corps et l'esprit chez lui étant passablement en accord, n'est-ce pas, le corps ne parlerait pas si fort. Mais comme justement Sancho est là, qui lui incarne la panse à elle toute seule, n'est-ce pas, alors le roman, on l'a beaucoup reproché à Cervantes, mais c'est l'un des plus grands malentendus qui soit, n'est-ce pas, c'est pas du tout recherche de la trivialité, mais c'est au contraire une très grande vérité. Si vous voulez, le plus grand ascète est celui qui, au fond, a le plus à faire avec la trivialité de la vie.
Marthe Robert parlait d'une critique de l'idéalisme et en même temps de l'absence d'idéalisme. La position de Pierre Villard est légèrement différente.
J'appellerais plutôt irréalisme la position de Don Quichotte plutôt que idéalisme. Irréalisme critiqué d'ailleurs. En réalité, le Quichotte est une critique de l'irréalisme, c'est-à-dire on nous fait vivre des gens qui, suivant l'expression même de Cervantes, qui avait été donné, chose curieuse, en 1600 par González de Señorigo, il s'agit de gens qui vivent dans un monde enchanté, hors de toute réalité naturelle, et qui veulent vivre contre les lois naturelles. Ils veulent vivre contre les lois naturelles parce qu'ils veulent vivre à l'aide d'argent qui leur vient d'ailleurs. Ils veulent vivre en dehors de leur propre production, de leur propre réalité. Eh bien, vous avez cette sorte de peinture d'un personnage symbolique qui est le symbole de l'irréalisme espagnol. Et il me semble que c'est ça le véritable coup de génie de Cervantes dans le Quichotte.
Ainsi donc, comme toute œuvre véritablement grande, Don Quichotte oscille perpétuellement entre l'intemporel et le vécu, entre le livre et le temps. Tantôt, suivant le point de vue d'où on le considère, message éternellement actuel, tantôt description, reflet ou critique d'une existence, d'une société et d'une époque.
Je ne crois pas, malgré tout, que Don Quichotte soit véritablement représentatif d'un temps, n'est-ce pas ? Bien sûr, il l'est. Bien sûr, il l'est. Aucune œuvre ne tombe comme ça du ciel. Et on a bien souvent constaté que le changement considérable, des changements politiques énormes qui se sont produits à la naissance de Cervantes, enfin dans son enfance, a pu évidemment frapper une imagination d'enfant d'abord, et rester pour l'homme mûr, pour l'homme fait, une sorte d'opposition inconciliable, n'est-ce pas ? L'Empire représentait toute la splendeur et la grandeur de la vie, et puis représentait aussi autre chose qui n'a plus été recréée depuis et qui n'existe peut-être que dans notre imagination, mais qui semble tout de même avoir existé au moins pour certains esprits, n'est-ce pas ? C'est un moment où, semble-t-il, la pensée et l'action se trouvait en harmonie. Du moins, c'est comme cela que pouvait le vivre un homme comme Cervantes, qui lui-même était aussi un homme d'action. Donc, ce moment privilégié, pour l'écrivain, sinon pour les citoyens, pourrait expliquer la naissance d'une figure aussi extraordinaire que celle-là, n'est-ce pas, qui représente justement le divorce total de la pensée et de l'action.
Je crois que nous pourrions dire que cette œuvre est une œuvre de transition, c'est une œuvre de crise qui marque la fin d'une époque, qui donne congé à une époque, qui donne congé à l'idéal féodal, à l'idéal de la chevalerie. Mais on peut dire aussi que Cervantes lui-même a été un inadapté. Adapté dans la mesure où il était lui-même un partisan des idées nouvelles, mais inadapté dans la mesure où il n'avait pas réussi, ni comme écrivain d'ailleurs pendant très longtemps, au début de sa vie, ni comme soldat. Et c'est peut-être dans la mesure où il a été un inadapté qu'il a pu, dans ses nombreux voyages, dans ses andanzas, dans ses aventures à travers la péninsule, prendre contact avec tous les membres, toutes les classes de la société espagnole et nous donner un extraordinaire tableau d'ensemble. Il ne faut pas oublier qu'en tant que commissaire aux vivres pour la marine, en tant que collecteur d'impôts, il a été amené à parcourir le sud de l'Espagne, l'Andalousie, la région de Séville, la Mancha, en tous sens, et à prendre contact dans les villages avec des représentants de toutes les classes sociales. Et toutes ces classes sociales, nous les voyons revivre avec une intensité, une exactitude extraordinaire dans El Quijote. S'agit-il par exemple de la grande noblesse, en voyant les personnages du duc et de la duchesse, petite noblesse, des hidalgos, Don Quichotte lui-même, dont on nous dit que, on nous décrit son bien, quatre arpents de terre, un vieux cheval, un lévrier, on nous décrit ses goûts, son mode de vie, son goût pour la chasse, lecture des romans de chevalerie, parce que dans un certain sens, c'est aussi une classe inadaptée.
Les hidalgos, c'est évidemment un type à la fois social et moral, et qui existe depuis le Moyen-Âge, peut-on dire, en Espagne. La multiplication des hidalgos est une des grandes caractéristiques de l'Espagne, en ce sens qu'il s'agit d'une classe moyenne, d'une noblesse moyenne et d'une petite noblesse, qui n'est pas riche et qui n'a pas non plus, à côté de la grande aristocratie qui a les pouvoirs, qui n'a ni pouvoir à elle-même, ni même capacités économiques. Telle est la définition du hidalgo. Le hidalgo a trouvé, bien entendu, d'aventure et des possibilités par conséquent d'espoir tant que la grande période espagnole a duré, c'est-à-dire pendant la période où l'Espagne faisait la guerre un peu partout et plus particulièrement était en train d'occuper l'Amérique et de donner à l'Amérique ses propres cadres. Et puis, dans la période du Quichotte précisément, et déjà dès le milieu du XVIe siècle, on voit des quantités de hidalgos qui ne trouvent plus dans la conjoncture de l'Espagne la possibilité de s'employer. Ils deviennent alors, évidemment, des oisifs dont déjà tout le monde se moque. Il y a un thème littéraire bien connu, naturellement, qui se moque du hidalgo, mais le peuple lui-même, les gens des villages, commencent à se moquer du hidalgo oisif. Pourquoi ? Parce que le hidalgo oisif n'a plus les possibilités de garder son rang.
Parce qu'ils ont titre de hidalgo, ils ont tel orgueil qu'ils tiennent pour rien ceux qui sont moins qu'eux. Parce qu'ils ont titre de hidalgo, ils ne veulent pas payer leurs dettes ni rendre le bien qu'ils ont mal acquis. Parce qu'ils ont titre de hidalgo, ils prennent le droit d'importuner les femmes des autres sans que les maris osent leur dire « Que voulez-vous à cette heure ?» Parce qu'ils ont titre de hidalgo, ils appellent honneur la vengeance de leurs injures privées et mettent la division dans la République. Parce qu'ils ont titre de hidalgo, ils ont licence de ne pas jeûner les jours de vigile et de faire gras en temps de carême. Parce qu'ils ont titre de hidalgo, ils ont l'audace de dire du mal des bonnes gens, qui dans leur bouche ne sont que méchantes gens, n'ayant pas de terre familiale connue, ce dont ils font plus de cas que du Saint-Baptême. Parce qu'ils ont titre de hidalgo, ils ont faculté de se lever à 11 heures et d'aller du lit à table. Et là où règne l'oisiveté, vient vite le mal dire, puis le mal faire, et plus mal persévérer.
Ensuite, nous voyons les laboureurs représentés par Sancho Panza, avec son extraordinaire bon sens, son goût des proverbes, son bon cœur, une certaine tendance à la colère, enfin des caractéristiques qui sont encore aujourd'hui celles du peuple espagnol. Nous voyons les riches laboureurs représentés dans l'épisode des noces de Camacho. Nous avons les gens de théâtre. Les gens de théâtre qui s'en allaient de village en village donnaient des représentations dans les corrales. Et lui-même, Cervantes, lorsqu'il a fait représenter ses comédies, les a fait représenter à peu près dans ces conditions-là. Et même la fameuse Numance a dû être représentée de la sorte. À plusieurs reprises, nous voyons des comédiens apparaître dans son œuvre, et notamment dans le chapitre de Don Quichotte, où nous voyons le Retablillo de Maese Pedro, c'est-à-dire le petit théâtre de marionnettes de Maître Pedro, le montreur de marionnettes et de singes. Nous voyons également surgir des personnages complètement inadaptés en marge de la société, comme le Picaro. Il y a tout un aspect picaresque dans Don Quichotte et dans d'autres aspects de l'œuvre de Cervantes. Car lui-même avait été en contact avec des ruffians et des vagabonds, notamment à la prison de Séville, où il avait été emprisonné pour n'avoir pu fournir des fonds qu'il avait collectés. Et il s'est trouvé à la prison de Séville avec environ 2000 malfaiteurs, ruffians, picaros, vagabonds, hors-la-loi divers. Il a donc eu possibilité de les observer. Et le fruit de cette observation, nous la trouvons moins dans Don Quichotte que dans Rinconete y Cortadillo. L'une des plus célèbres de ces nouvelles exemplaires.
Deux garçons, vêtus comme des étudiants et qui pouvaient avoir chacun 20 ans, entrèrent dans la maison, suivis de deux portefaix et un aveugle. Tous, sans ouvrir la bouche, se mirent à se promener dans le patio. Il s'était écoulé peu de temps lorsque parurent deux vieillards en serge noir. Chacun tenait dans ses mains un rosaire au grain cliquetant. Derrière eux, entra une vieille en juponnée, puis deux braves, galamment ajustés, longues moustaches, chapeau à large bord, épée au-dessus de la taille licite, des pistolets en place de dagues et leurs petits boucliers pendus à la ceinture. À leur entrée, ils roulèrent de gros yeux du côté de Rincon et de Cortado, comme pour marquer combien la présence de ces inconnus les surprenait. Ce fut alors le moment où le seigneur Monipodio, aussi attendu que bien vu de toute cette assemblée, descendit et fit son entrée. Il paraissait 45 à 46 ans. C'était un homme grand de taille, le visage brun, les sourcils rapprochés, la barbe noire et très épaisse, les yeux enfoncés. Il était en manche de chemise et par l'ouverture du devant, il découvrait une forêt, tant était épaisse la toison qu'il portait sur la poitrine. Une cape de serge l'enveloppait presque jusqu'à ses pieds, chaussée de souliers mis en pantoufles. Des culottes de drap bouffantes couvraient ses jambes jusqu'aux chevilles. Son chapeau était celui des gueux, haut et fier de forme et aux ailes tendues. Un baudrier lui barrait la poitrine, d'où pendait une épée large et courte, à la mode de celle que fabriquait Julien le Mort. Les mains étaient courtes et velues, les doigts gros, les ongles épatés et crochus. On ne voyait pas ses jambes, mais ses pieds étaient monstrueusement larges et osseux. Dans son ensemble, c'était bien le barbare le plus rustique et le plus difforme du monde.
Les chevaliers des temps fabuleux,
écrit encore Jean Cassou dans sa préface aux nouvelles exemplaires,
les chevaliers des temps fabuleux s'en allaient combattre andriagues et chimères en d'imaginaires contrées. À présent, c'est pour vivre. qu'il faut chercher aventure. C'est pour manger. Et non plus à travers les contrées d'une géographie fantastique, mais à Valladolid, à Séville, aux Indes aussi, certes, mais des Indes où l'on a affaire à de très concrètes réalités, négoces et administrations. Le théâtre du monde s'est élargi, mais il demeure le théâtre du monde, avec ses alguazils, ses corégidors, ses distinctions entre gueux et banquiers, gentilshommes de fortune et favoris en place, et enfin cette distinction du bien et du mal, qui est une des plus fortes réalités à quoi se puisse heurter le Picaro. Le Picaro a faim. Le Picaro est sans naissance et sans but. Le Picaro se tire d'affaire comme il peut, au hasard des circonstances. Miguel de Cervantes n'était pas un Picaro, mais à la façon d'un Picaro, il devait lui aussi collaborer avec un destin absurde et inégal. Il était venu au monde sans armes, avec des charges, peu de chance, une bonne âme gentille et douce, une imagination aux appétits effrénés, mais qui se déroulait pour elle-même, en dehors de toute nourrissante réalité. Pour le reste, il n'était que de se laisser aller au gré des vents, quitte à tomber sur le rivage barbaresque et y subir mille avanies. Aussi bien si Cervantes n'a pas vécu sa vie en Picaro déclaré, si son vieux stoïcisme national, n'oublions pas que Sénèque était espagnol, ne va pas jusqu'au cynisme, du moins était-il fait pour comprendre à fond la psychologie du Picaro, et pour former de la vie une image exacte et amère.
Peut-être que la meilleure caractéristique que l'on pourrait trouver pour la société espagnole, c'est une analyse, je dirais, du sous-développement, c'est-à-dire d'une économie qui ne peut pas employer tous les gens. Et c'est pourquoi le Picaro n'est pas à proprement parler une classe, c'est pas même du tout une classe, mais c'est aussi bien le chômeur de la classe travailleuse, c'est aussi bien le paysan qui ruiné a gagné la ville et qui n'est pas arrivé à monter sur les bateaux qui s'en vont en Amérique. Vous avez aussi bien naturellement l'étudiant, par exemple, qui n'a pas terminé ses études ou qui n'a pas trouvé de situation correspondante à ses études. Vous avez les gens qui s'attachent à l'église par en bas, si j'ose dire, c'est-à-dire tous les types de sacristaines, de bouledéros, c'est-à-dire de vendeurs de bulles, de vendeurs de prières, ce sont les picaros. Mais naturellement, dans les picaros, vous avez ceux qui sont, pour ainsi dire, sans danger, vous avez les picaros qui vivent tout simplement de petits expédients et de petits métiers, ça existe partout, mais vous avez bien entendu alors aussi ceux qui organisent la pègre et qui existent dans toutes les villes.
Donc nous avons un tableau extrêmement complet qui va depuis les grands seigneurs jusqu'aux galériens, aux gitans et aux picaros, en passant par le curé, le barbier, les laboureurs riches, les petits hidalgos, les pauvres laboureurs comme Sancho Panza. Nous nous trouvons en présence d'un panorama de la société de l'époque qui est en réalité une épopée comique et attendrie.
En revanche, je crois que ce qui serait peut-être utile de souligner, c'est que le caractère extrêmement local de l'œuvre, local, je l'entends au sens vraiment de volontairement réduit à un paysage, à un aspect national des choses, étant donné la rigueur, l'humour, la sympathie et toutes les immenses qualités avec lesquelles justement ce local est traité, eh bien devient universel. Et je crois que c'est justement la vérité de ce local, la vérité de cette couleur locale, de cette teinte tellement spécifique, je crois que c'est ça qui en fait un livre qui a depuis longtemps d'ailleurs dépassé toutes les frontières géographiques et historiques, n'est-ce pas? N'importe quel lecteur espagnol ou pas se trouve être avec Don Quichotte le centre d'un monde intellectuel, d'un monde spirituel.
Puisqu'il se renferme et se rétrécit dans les limites étroites d'une narration, alors que son habileté, sa puissance et son intelligence lui auraient permis de traiter de l'univers entier, il demande qu'on ne méprise pas son travail et qu'on lui donne des louanges. Non pas pour ce qu'il a écrit, mais pour ce qu'il s'est abstenu d'écrire.
Parvenu au terme de cette reconnaissance, sans doute incomplète, de l'ambiguïté de la situation de Don Quichotte dans la société de son temps, il faut peut-être faire une pause, rassembler les éléments qui ont été glanés dans les structures d'une société, dans les événements d'une vie de soldat et d'écrivain, dans les pages d'un livre immortel. Qu'est-ce donc que désigne avec autant d'intensité le premier héros problématique de la littérature ? Cette ironie qui souligne la dialectique de la vie et des livres, du quotidien et de l'idéal, du présent et du passé, que nous apprend-elle ? C'est à Marthe Robert que nous avons demandé cette ultime réflexion. C'est elle qui, pour finir, mettra l'accent sur l'apport fondamental du Quichotte.
Les livres parlent toujours du passé. C'est une constatation extrêmement importante et d'une intelligence qui n'a jamais été surpassée, n'est-ce pas ? Cette constatation extrêmement grave pour notre conception de nous-mêmes, d'ailleurs, et pour notre conception de notre intelligence du présent, n'est-ce pas ? Cervantes est bien le premier à l'avoir compris. Nous ne vivons pas le présent, mais toujours un présent réécrit en fonction du passé. Le premier, il a montré, il a démontré, car c'est vraiment une démonstration que le livre, il a démontré que le passé n'est pas seulement du temps écoulé, mais c'est aussi, spirituellement parlant, un certain nombre d'images dont nous ne pouvons même pas, les trois quarts du temps, avoir conscience, et dont, par conséquent, nous ne pouvons pas nous défaire, qui commandent littéralement notre vie intérieure, n'est-ce pas ? Le passé décrit ici par Cervantes, ce n'est pas seulement celui des romans de chevalerie, c'est celui de tout un monde qui représente un certain nombre de contraintes spirituelles ou de satisfaction spirituelle, que l'on peut d'ailleurs énumérer assez facilement, n'est-ce pas ? Ces images sur lesquelles fonctionne Don Quichotte sont effectivement passées, mais elles sont aussi infantiles. Ce qui d'ailleurs, là, le passé de l'histoire rejoint le passé de l'individu. Et elles sont basées, encore une fois, sur le désir. C'est une réalisation du désir, et qui d'ailleurs va dans plusieurs sens. Désir d'idéal, désir de perfection, désir surtout d'intelligibilité du monde. C'est un écrivain actuel qui sent qu'il ne peut pas, lui, se détacher du passé par, disons, son âme, par ses besoins et ses désirs d'âme, et qui intellectuellement connaît cette situation, d'où le conflit. Il y a cette constatation infiniment plus lourde de conséquences, à mon avis. C'est que Don Quichotte, qui à cause de ça est à mon avis un des plus grands personnages de la littérature mondiale, Don Quichotte représente vraiment l'impossibilité de penser seul. Je crois vraiment que c'est là l'intuition, si vous voulez, l'idée la plus inépuisable du livre. Comme beaucoup de très grands esprits, Cervantes a senti, a compris, que la grande difficulté, au fond, c'est la pensée seule. Et la seule façon, au fond, de penser là, c'est de montrer cette impossibilité. C'est en ça que je pense que Cervantes est le plus moderne des écrivains, pas seulement anciens, mais modernes.
L'émission que vous venez d'entendre était réalisée avec la collaboration de Jean-Michel Minon et avec la participation de Mesdames Elena de la Souchère et Marthe Robert et de Monsieur Pierre Villard, directeur d'études à l'École des Hautes Études de Paris, avec les voix de Liliane Becker, Roger Dutoit, René Fontaine, Michel Francen, André Guil, Yves Larec et Guy Le Cire. Prise de son et montage, André Dehaene, Jacques Gossens, René Plasmans et Gilbert Sterboot. Réalisation, Jean-Louis Jacques. C'était une émission du troisième programme de la radiodiffusion Télévision Belge.
La communauté radiophonique des programmes de langue française vient de vous présenter une émission de la radiodiffusion télévision belge, Don Quichotte entre le livre et le temps, par Jean-Louis Jacques.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 18 avril 1966. Vous pouvez l'écouter pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur franceculture.fr.
La Borésie, c'est mon dada, mon dada, mon dada. Et l'utopie, c'est mon topo, mon topo, mon topo. La poésie, c'est mon dada, et l'utopie, mon topo, mon topo. On peut me traiter de fada, de fêlé, de margot. Ce sera toujours mon béaba, ma devise, mon credo. La poésie, c'est mon dada, et l'utopie, mon topo, mon topo. Qui chevauche sur son pâle palefrois, et Sancho qui le suit en gardant son sang-froid, chante ça en duo de moulin en château, au petit trot des sabots, et soudain au galop, au galop, au galop. C'est mon dada, et l'utopie, c'est mon topo. La poésie, c'est mon dada, et l'utopie, mon topo. Chante Don Quichotte et Sancho. Dada, mon drapeau, mon parda, et l'utopie, c'est mon topo, j'ai le rêve dans la peau. La poésie, c'est mon dada, et l'utopie, mon topo, mon topo. Don Quichotte qui chevauche sur son pâle palefrois, et Sancho qui le suit en gardant son sang-froid, chante ça en duo pour les vaches, pour les veaux, par les monts, par les veaux, et encore au galop, au galop, au galop. La poésie, c'est mon dada. Et Sancho.